Bonjour à toutes et à tous. Alors les enfants, ils ont vu qu'il y avait des cadeaux, en effet. Il y a des cadeaux, et je vais même venir vous poser quelques questions avant que vous commenciez à dessiner, parce que il y a quelques temps, il me semble que vous avez reçu des cadeaux, et moi, je ne sais pas vous, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont reçu, ces enfants. Alors les enfants, il y a un peu moins d'une semaine, on fêtait Noël. Alors est-ce que vous avez reçu des cadeaux? Oui. Alors est-ce que vous voulez nous dire ce que vous avez reçu? Non? Toi, tu veux?
Oui, j'aimerais dire une chose. J'ai eu un hélicoptère télécommandé qui peut voler, qui ressemble à un drone.
Ok. Et il a eu un hélicoptère télécommandé qui ressemble à un drone. Ça, c'est vraiment un très, très beau cadeau. T'étais content de ton cadeau?
Oui.
Oui.
Il était à la hauteur de ce que tu attendais?
Oui.
Bon, il a eu un cadeau à la hauteur de ses attentes. Donc ça, c'est vraiment génial. Tu veux nous dire ce que tu as eu pour Noël?
Oui. Moi, j'ai eu une robe de princesse.
Une robe de princesse. Alors ça, c'est vraiment un beau cadeau. Et il te plaisait, ce cadeau?
Oui, c'était une robe de danseuse.
Princesse danseuse. Alors ça, c'est extraordinaire. Et il était à la hauteur de tes attentes, ce cadeau?
Oui.
Alors, vous, je suis sûr que les grands, vous avez aussi reçu des cadeaux. Je suis sûr que vous avez reçu des cadeaux et j'espère qu'ils étaient à la hauteur de vos attentes. Moi, j'ai reçu un cadeau pour Noël. J'ai reçu des nouvelles baskets blanches, toutes neuves. Et j'ai eu de la chance. J'étais vraiment très, très content de mon cadeau. Et il faut dire qu'il était vraiment à la hauteur de mes attentes. Disons que par rapport à ce que j'avais demandé, j'ai reçu exactement ce que j'avais voulu. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Par contre, si j'avais reçu ce cadeau-là, j'aurais été un peu plus embarrassé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout adapté à ce que j'attendais, il n'est pas fait pour mon pied. Bref, ce n'aurait pas été du tout chaussure à mon pied, comme le dit l'expression. Alors, il y a un peu moins d'une semaine, nous l'avons dit, nous fêtions Noël. Noël, c'était la venue, nous célébrions la venue de Jésus sur cette terre. Et je vais vous proposer ce matin d'aller à la rencontre de certaines personnes du Nouveau Testament qui, à peu près 8 jours après la naissance de Jésus, ont fait la rencontre de Jésus, de l'enfant Jésus, quelques 8 jours après. Alors, 2 personnes les connaissaient très très bien, ce sont ses parents, 2 personnes connaissaient très bien Jésus, Marie et Joseph, mais 2 autres personnes ont fait la rencontre de Jésus. On va voir si le cadeau promis par les prophètes de l'Ancien Testament était à la hauteur des attentes du peuple. Est-ce que ce cadeau était aussi bien que ce qu'il pensait? Qu'est-ce que ce cadeau-là a produit? Eh bien, c'est tout ce qu'on va découvrir dans un instant. Alors, il va falloir bien écouter les enfants. Hein. Je lis donc Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 21 à 40. Luc, chapitre 2, versets 21 à 40. On va lire une bonne portion de texte qu'on commentera ensuite. Quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle né, le premier de sa mère, sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple, Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et, toi-même, une épée te transpercera de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était aussi très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve, âgée de 84 ans, et elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Un très beau texte, n'est-ce pas, rempli de louanges, de proclamations, et je trouvais que c'était une belle manière de vivre ce dernier culte de l'année. Alors, le premier élément que je vous invite à considérer ce matin, vous l'avez peut-être remarqué dans le texte, on va voir ceux qui ont eu le temps de regarder l'écran ou pas, je vais vous faire parler un petit peu les adultes. Il y avait un élément que j'ai relevé plusieurs fois dans le texte, il y avait un mot en particulier, quel était ce mot-là ? Accompli. Vous avez vu, ce mot revient pas moins de 4 fois dans notre texte, Jésus est venu accomplir. Alors, au verset 21, 8 jours furent accomplis, leurs purifications furent accomplies selon la loi de Moïse, verset 22. Verset 27, les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi. Verset 39, lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur. L'accomplissement. Alors ça, c'est un thème central dans tout le Nouveau Testament, mais surtout dans ce début du passage, dans ce début de l'évangile de Luc, c'est l'accomplissement. L'évangéliste se plaît à montrer que si Jésus est là, dans le temple, présenté, circoncis, consacré, purifié, c'est pour que tout cela soit accompli, pour montrer que tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit, tout cela est accompli en Jésus. Toutes les prescriptions de la loi sont parfaitement accomplies en Jésus. Et pour cela, Joseph et Marie vont mettre tout en œuvre, vraiment tout en œuvre, pour que l'enfant Jésus soit irréprochable d'un point de vue de la loi. Il ne faudrait surtout pas mettre l'enfant Jésus, né juif dans une famille juive, qu'on puisse le mettre à défaut sur un aspect ou un autre de la loi, parce qu'il est vraiment parfait et il vient accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament. Jésus est un enfant sans défaut, il est né tel quel, il est né d'un miracle, et on va tout mettre en œuvre pour que ce cadre de sainteté soit maintenu, préservé, tout au long de sa vie. Pourquoi ? Eh bien parce que Joseph et Marie l'ont bien compris, Jésus est le Messie, celui qu'attendait tout le peuple d'Israël avec une espérance incroyable, celui qui viendrait les sauver de tout mal. Alors maintenant, on va partir à la rencontre de deux personnages. Deux personnages qui, comme Joseph et Marie, ont bien compris une chose, c'est que Jésus vient véritablement accomplir la loi de Moïse. Alors le chemin de Joseph et Marie croise tout d'abord celui de Siméon. Siméon. Alors, qu'est-ce qui nous est dit de Siméon ? Siméon, les enfants. Siméon. Tu ne sais pas écrire. Ah ben, il ne faut pas écrire, il faut dessiner. Il faut dessiner un beau Siméon pour le montrer à la fin, alors. Un tout beau Siméon. Tu as vu, il est beau, hein, Siméon. Alors, il nous est dit plusieurs choses de ce Siméon-là. C'est que c'est un homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit de Dieu était sur lui, nous dit le verset 25. Un homme entièrement consacré. On verra, c'est un homme âgé, un homme très âgé, qui a la conviction qu'il verra le Seigneur avant de mourir. Il est rempli d'une conviction, c'est qu'il verra le Messie, le Seigneur, celui qui est attendu, avant de mourir. Enfin, il va être poussé par l'Esprit de Dieu à venir au temple, et c'est là qu'il va rencontrer Jésus dans le temple, et il va le bénir. Alors un homme dont le portrait nous est dressé, juste et pieux. L'Esprit de Dieu est sur lui et il a une conviction, quelque chose de profond en lui, c'est qu'il verra le Seigneur avant de mourir. Et il va bénir Jésus et il va quelque part avoir l'accomplissement, là encore, de la promesse qu'il avait reçue en lui, qu'il verrait le Seigneur, puisqu'il va voir Jésus dans le temple. Le Seigneur va donc lui donner de vivre ce qu'il avait reçu au plus profond de lui. Mais on va voir que le Seigneur, dans la rencontre, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Parce qu'après avoir pris Jésus dans ses bras, il va donner deux paroles de bénédiction. Et là, je vous invite à les relire, c'est les versets 29 à 32. « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Une magnifique bénédiction qu'il reçoit juste avant de mourir. Alors, on n'a pas le récit de sa mort, mais on peut s'en douter. Il reçoit que Jésus est le Messie sauveur. Donc, ce n'est pas simplement le Messie à l'époque, c'est un homme politique qui doit rassembler des foules et qui doit terrasser l'Empire romain qui est là depuis quelque temps. Eh bien, il reçoit la conviction que le Messie est le Sauveur. Mes yeux ont vu ton salut, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Il perçoit ensuite que la lumière sera donnée aux nations d'abord. Lumière, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Donc il perçoit déjà, on voit que la bénédiction a déjà une tournure un petit peu particulière, c'est qu'il perçoit que la lumière sera, on le voit dans les actes, hein, la lumière sera d'abord reçue par quelques juifs, mais ensuite aux nations, et finalement, ça sera le peuple de Dieu qui le recevra, Israël qui le recevra finalement. Le fait d'avoir les nations en premier lieu ici est vraiment surprenant dans le Nouveau Testament. Par la suite, la bénédiction de Siméon va prendre encore un tournant particulier, et là on a quelque chose de vraiment intéressant. Et ça, lorsqu'il va s'adresser à Marie, la mère de Jésus. Versets 34 et 35, que je me permets de relire. « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Alors, c'est un peu compliqué peut-être pour les enfants, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, le contact avec le Seigneur Jésus va provoquer quelque chose... chez Siméon, de tout à fait inattendu, c'est que ce qui était une bénédiction va se transformer quelque part en prophétie, avec une vision, disons, un peu de l'avenir, et il va avoir très clair dans le rôle de Jésus sur cette terre. Il annonce tout d'abord la double portée du ministère de Jésus. Il sera chute et relèvement, c'est-à-dire qu'il va venir pour apporter un jugement. Pour ceux qui ne l'accepteront pas, il provoquera la chute, alors que pour d'autres, ils seront relevés par la venue de Jésus. Et il annonce ensuite que le ministère de Jésus aura des conséquences sur sa vie de famille. Il n'est pas là que pour les siens, mais il est là pour une mission qui est plus grande que lui simplement. Alors, ce qui est assez incroyable ici, c'est que Siméon va recevoir une révélation juste extraordinaire. On est au début du Nouveau Testament. Siméon voit l'enfant Jésus, il n'a que 8 jours. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec un enfant de 8 jours, mais on n'a pas vraiment encore un grand dialogue et l'impression qu'il puisse nous dire grand-chose, ni de qui il est, ni de ce qu'il fera. Le mien a quelques mois de plus, mais j'en suis pas encore tout à fait là. Mais pour autant, Siméon, lui, va recevoir une révélation juste extraordinaire, c'est que ce que des gens... les disciples vont mettre des années et des années à comprendre, Siméon va le recevoir de l'Esprit en un instant. Alors c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et ce que je peux dire ici, c'est que le contact avec le Seigneur Jésus, alors qu'il n'a à peine que 8 jours, va transformer le ministère de Siméon, cet homme qui était habitué au temple, qui est censé donner une bénédiction sur Jésus, eh bien va d'un seul coup se mettre à prophétiser sur la vie de Marie et avoir une parole qui sera au-delà d'une simple bénédiction, mais va avoir un caractère prophétique. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que le contact avec le Seigneur Jésus va transformer le ministère de Siméon alors que Jésus n'a que 8 jours. Siméon, au contact du Seigneur, devient plus qu'un homme juste et pieux. Passons maintenant à Anne. Alors Anne, la description est plus courte dans l'évangile de Luc, mais il nous est dit quelque chose, les enfants, à propos d'Anne, plusieurs choses. Anne, elle est prophétesse. Elle est fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là ? C'est que c'est une femme juive et profondément juive et qu'on peut retracer sa lignée juive. Elle aussi, on insiste sur le fait qu'elle est âgée. Elle a 84 ans. Que personne ne se sente blessé quand je dis âgée à 84 ans, hein, vraiment pas. Et le texte nous dit qu'elle est veuve depuis longtemps. Autre caractéristique, c'est qu'elle ne s'éloignait pas du temple, nous dit le texte, elle priait et jeûnait nuit et jour et nuit, tout le temps, perpétuellement. Alors, évidemment, hein, elle n'est, c'est une manière, une hyperbole pour nous dire qu'elle était là constamment dans le temple et qu'elle elle priait, jeûnait, mais évidemment, elle a mangé, elle a aussi dû faire certaines choses, mais que c'était une femme vraiment très dévouée au service du temple et au Seigneur. Alors là encore, il y a une nouvelle dimension qui est assez intéressante au contact de Jésus, c'est qu'il nous est dit qu'après avoir vu le Seigneur, et on insiste sur ça, après avoir vu le Seigneur, le texte nous dit qu'elle louait et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Alors, sur quoi je vais mettre l'emphase ce matin ? C'est que on avait un homme qui est connu pour donner une bénédiction, un homme âgé, qui attend juste une chose, c'est de voir le Seigneur avant de mourir. Et cet homme-là, il donne une bénédiction, mais se transforme quelque part en prophète au contact du Seigneur. Cette femme qui est décrite prophétesse, elle, au contact du Seigneur, ne prophétise pas, mais se met à quoi ? Eh bien, à annoncer, ce qu'on dirait aujourd'hui un ministère d'évangéliste, elle annonce que Jésus va venir et qu'il va apporter la rédemption de Jérusalem, c'est-à-dire le salut de Jérusalem. Il va venir apporter la paix et le salut à tous les habitants de Jérusalem. Donc là encore, le contact avec le Seigneur va transformer son ministère, va transformer toute sa vie à cette aînée dans la foi. Au contact du Seigneur, Anne devient plus qu'une simple prophétesse. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer tout ça ? Eh bien, on peut dire que le contact avec le Seigneur transforme les vies. Transforme les vies de personnes âgées, de personnes qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Mais il peut aussi transformer notre vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte ne fait pas de Siméon et Anne des héros dans la foi. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, on est là en contact de deux personnes qui sont présentées comme fragiles. Les deux sont âgés, l'un sait qu'il va mourir, l'autre a 84 ans et passe son temps dans le temple. Et ce ne sont pas des héros parce que, notamment, prenons Anne nous est présentée comme veuve, ce qui, à l'époque en Israël, une condition particulière de veuve, qui était veuve depuis de nombreuses années, qui avait probablement vécu des choses difficiles. Les habitants de Jérusalem se demandaient peut-être est-elle stable émotionnellement pour annoncer le salut à tout Jérusalem ? A-t-elle son témoignage est-il crédible aux yeux des Juifs de son temps ? On sait par des sources anciennes juives, autres que du Nouveau Testament, qu'il fallait le témoignage d'au moins 3 femmes, lorsqu'il s'agissait de femmes, pour que le témoignage d'une femme soit reçu. On comprend mieux la résurrection, pourquoi des femmes vont au tombeau et qu'elles ne sont pas seules, par ailleurs. Mais pour autant, le Seigneur Jésus va qualifier cette femme veuve, âgée, pour témoigner de la rédemption de Jérusalem. Donc, ce ne sont pas des héros qui sont là, grands devant nous, complètement inatteignables, mais ce sont deux personnes telles qu'elles sont, avec leur fragilité, et qui sont transformées par le Seigneur. Alors il me semble qu'on a là 2 exemples très encourageants pour nous ce matin. De par leur foi, leur piété, leur attachement au temple, Siméon et Anne sont 2 beaux exemples de vie entièrement dévouée au Seigneur. Entièrement dévouée au Seigneur, ils passent leur temps au temple et nuit et jour, ils priaient et jeûnaient. Ce sont deux exemples inspirants pour nous, il me semble, de leur vie de foi aujourd'hui où on a des occasions, alors parlons du temple, mais du temple ici, mais de se détourner de la foi. On a toujours mieux à faire, on a le chalet à la montagne, on a ceci, cela qui fait qu'on a toujours quelque chose de mieux à faire que de se consacrer au Seigneur. Je ne dis pas forcément venir à l'Église, mais de manière générale, de se tourner vers le Seigneur. Alors il me semble qu'en cette fin d'année, ce sont deux beaux exemples, malgré leur âge avancé, de vie entièrement dévouée au Seigneur. Et Siméon et Anne, ce sont, je l'ai dit, aussi deux personnes fragiles. Lui sait qu'il va bientôt mourir, tandis qu'elle est veuve depuis de nombreuses années. Et en cela, ils nous rejoignent aussi, je le crois, dans nos fragilités, dans ce qui pourrait nous retenir de nous engager auprès du Seigneur, dans notre âge, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit bien âgé, dans notre santé parfois fragile, dans notre condition sociale, dans nos péchés parfois qui constituent un obstacle dans notre relation au Seigneur. Pour autant, malgré tous ces obstacles, et malgré le fait que Jésus n'a que 8 jours, il décide de se révéler à eux et de se servir d'eux pour à la fois prophétiser, pour annoncer un message à Marie et pour annoncer toute la rédemption de Jérusalem à travers Anne la prophétesse. Eh bien, tout comme le Seigneur a utilisé ces deux personnages, le Seigneur veut nous utiliser, il veut t'utiliser tel que tu es durant cette année 2019. Je le crois, malgré nos imperfections, nos fragilités, le Seigneur veut nous utiliser. Et il n'y a aucun obstacle qui soit assez grand pour se mettre à son service. Alors le cadeau que nous avons reçu à Noël en la personne de Jésus dépasse de loin nos attentes, vraiment. Alors qu'il n'a à peine que 8 jours, le Seigneur se révèle entièrement à ses deux aînés dans la foi. Jésus n'est en aucun cas un cadeau défectueux qu'il faudrait renvoyer au service après-vente parce qu'on est déçu finalement. Ce n'est pas l'enfant qu'on attendait, mais non. Il n'a à peine que 8 jours qu'il se révèle déjà à des gens et il confesse qu'il peut mourir. Siméon confesse qu'il peut maintenant mourir tranquille parce qu'il a vu la rédemption de Jérusalem. Donc Jésus n'est en aucun cas un cadeau défectueux, mais il vient bien au contraire donner du sens à toutes nos espérances, à tout ce qui est encore en germe durant cette année 2018. On a peut-être encore des choses en réserve, des promesses qu'on attend, des choses que l'on a reçues durant cette année 2018 et qui n'ont pas encore trouvé leur pleine réalisation. Mais Jésus vient donner du sens à tout ça, à la condition que nous puissions le suivre, le servir fidèlement, à l'exemple de ces deux aînés dans la foi. Alors il me semble qu'on voulait aussi mettre ce dernier culte de l'année 2018 en perspective, dans la louange, dans la célébration, remercier le Seigneur aussi pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous accorde, et lui confier l'année 2019 qui est devant nous, qui puisse aussi nous surprendre, parce qu'en son contact, à son contact, nous qui étions prophètes, nous pourrions nous transformer évangélistes, et nous qui étions, disons, quelqu'un qui bénissait, nous pourrions nous retrouver à avoir un ministère de prophète. Donc aussi, restons à son écoute, à son service, pour qu'il puisse nous utiliser comme bon lui semble. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que nous tenons devant toi. Nous voulons te remercier pour cette année 2018 avec toutes les bonnes choses et c'est avant tout de la reconnaissance que nous voulons t'exprimer, de vivre dans un pays où il y a la paix, où nous pouvons te louer librement. Nous voulons aussi penser à nos frères et sœurs qui n'ont pas cette occasion et tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont martyrs pour toi. Et Seigneur, nous sommes avant tout reconnaissants pour cette année 2018. Pour la joie, pour la santé, pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. Seigneur, on aimerait te présenter aussi les obstacles, et les obstacles qui sont là dans notre relation avec toi, les choses non accomplies, les choses où il y a encore des frustrations. Et nous voulons te prier pour cette année 2019 que tu puisses, Seigneur, nous utiliser comme bon te semble, là où tu le souhaites, à ton service, que tu puisses nous surprendre par ton esprit à nous retrouver à faire des choses insoupçonnées. Merci Seigneur pour ta grandeur, parce que tu ne regardes pas à nos péchés, à tous ces obstacles, à notre condition sociale, à notre âge, à tout ce qui pourrait constituer des obstacles, mais tu veux tout simplement nous bénir, Seigneur, et nous utiliser à ton service. Je te prie de bénir chacune, chacun ici présent, et on veut te louer, Seigneur, pour tous tes bienfaits, toutes tes grâces. Amen.